James Earl Carter, dit Jimmy Carter, né le 1er octobre 1924 à Plains et mort le 29 décembre 2024 dans la même ville, est un homme d'État américain, 39e président des États-Unis de 1977 à 1981. À l'occasion de son décès, nous sommes allés à la rencontre de Palé Dimaté, ancien député, expert des relations internationales et spécialiste des questions américaines, afin de découvrir quelques réalités sur l'homme. Jimmy Carter, président, et Jimmy Carter, post-présidence.
Junior Cardin.
Monsieur Palé Dimaté, bonjour.
Bonjour, Cardin.
Monsieur Palé Dimaté, merci de nous recevoir chez vous pour parler encore une fois des questions américaines. Et là, il s'agit d'un ancien président des États-Unis, il s'agit de Jimmy Carter. Il vient de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement qui il était et ce qui a marqué sa présidence?
Merci. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la communauté américaine, en Côte d'Ivoire comme aux États-Unis et partout le monde, pour cette perte d'un homme d'État reconnu par le monde entier et avec tout ce qu'il a fait aussi tant au niveau politique qu'au niveau social. Pour revenir à votre question, je peux dire que James Earl Carter, c'est son vrai nom, que vous appelez communément Jimmy Carter, est bien le président des États-Unis, le 39e président, qui a fait donc un mandat. Il est démocrate et après le mandat de 4 ans, il n'a pas pu gagner les élections. Mais ce que je peux dire, que c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout parce qu'il était d'une famille modeste, parce qu'il était planteur d'arachides, comme on le dit là, avec des cacahuètes, qu'il a hérité de ses parents et qui est resté dedans. Mais il a pu être sénateur 2 fois au niveau de la Géorgie. Son village s'appelle Plain et ensuite c'est gouverneur de la Géorgie. Il a fini par être élu président.
D'accord, nous allons continuer, M. Palé Dimaté, et cette fois-ci en parlant de ses principales réalisations. Quelles ont été les grandes réalisations de Jimmy Carter pendant son mandat à la Maison-Blanche, notamment sur le plan international?
Oui, vous savez qu'aux États-Unis, le président, il y a ce qu'on appelle la double présidence. Le président en politique étrangère et le président en politique intérieure. En politique intérieure, le président est souvent faible parce qu'il y a les associations, il y a les corporations, il y a les groupes de pression et qui s'impliquent dans cette politique intérieure à tel point que le président n'est rien devant les citoyens américains. Mais en politique étrangère, le président est fort parce qu'il a les mains libres d'agir. Et je pense que ce qu'on peut retenir d'abord, c'est que pendant son mandat, il a voulu d'abord respecter la convention de 1787. Parce que cette convention dit que le président fédéral n'est qu'un coordonnateur. Et sur le plan international, comme je le disais tantôt, le président Jimmy Carter, c'est démocrate. Ce qui ressort rapidement, d'abord, et qui est saillant, c'est l'accord de Camp David. Vous savez, l'accord de Camp David, c'est un grand événement où il a réussi à mettre Israël et l'Égypte ensemble. Et que cet accord-là a été un accord réconfortant pour la paix dans le Moyen-Orient, même si aujourd'hui il y a encore toujours des soubresauts là-bas. Ensuite, le problème d'Iran, où il y avait beaucoup d'Américains qui étaient retenus par les étudiants, il a dû faire un effort, mais là aussi, c'était une tâche dans ses activités de politique étrangère.
Mais justement, par rapport à ce dernier volet, on retient que son mandat a été marqué par des crises comme celle des otages en Iran, comme vous venez de le dire. Mais comment évaluez-vous sa gestion de ces défis-là?
Oui, disons que l'accord de Camp David a été un temps fort pour lui, un bilan positif pour lui. Mais le problème des 52 diplomates retenus en Iran a baissé sa cote, il faut le reconnaître, parce qu'ils sont restés là 444 jours. Et c'est inadmissible et ça s'est terminé par des morts même. Donc, et c'est ça qui peut-être même a dit entacher son mandat et qui a fait qu'il n'a pas pu avoir le deuxième mandat.
Et comment son style de leadership a-t-il été perçu aux États-Unis et dans le monde?
Oui, d'abord, en tant que président, son leadership n'a pas été apprécié par tous les Américains. Parce que vous savez, quand un Américain est touché quelque part et que le président ne réagit pas, ça baisse sa cote. Donc, la majorité n'avait pas apprécié positivement son mandat, sa gestion de ce mandat de 4 ans. Il n'a pas été un président fort. Il a été un président que les Américains trouvaient faible. Voilà. Mais après sa présidence, il s'est rattrapé, quelque part, en menant des actions sociales, des actions humanitaires. Si on tient qu'au niveau de son mandat, le bon résultat, c'est Camp David Et au niveau intérieur, les Américains n'ont pas apprécié positivement son mandat.
Mais M. Palais Dimaté, par rapport à son engagement humanitaire, nous allons en parler. Après son mandat, Jimmy Carter est devenu une figure emblématique des causes humanitaires. Comment son engagement a-t-il influencé l'image des anciens présidents américains?
Oui, il faut dire que ces mouvements qu'il a créés, cette institution comme la fondation qu'il a créée et ces activités qu'il a menées post-présidence lui ont permis de redorer son blason et même de fier en quelque sorte les autres présidents américains. Si on veut voir au plan philanthropique, au plan humanitaire, il n'y a pas un ancien président américain qui a mené des activités comme ça. C'est vrai qu'il y a des fondations Rockefeller, etc., des grandes fondations qui financent des actions sociales, mais en tout cas, il s'est rattrapé et en quelque sorte, il reste dans l'imagerie populaire américaine comme au plan international, comme un grand président, quelqu'un qui a travaillé pour l'humanité.
Et puis, sa contribution à la paix. On sait qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 2002. Selon vous, quelle a été l'importance de ces efforts pour la paix dans le monde, notamment en Afrique, chez nous?
Oui, d'abord, pas seulement la paix, mais les activités philanthropiques dont je venais de parler, les activités sociales, les activités humanitaires, c'est toutes ces activités-là qui ont concouru à lui donner, à reconnaître son mérite, à lui décerner le prix Nobel de la paix. Donc, il a, en Afrique ici, quand il a créé le mouvement des LDS avec Mandela, ils ont ensemble mené certaines activités au niveau politique pour amener la paix dans nos contrées, dans certains états de l'Afrique, où ce sont des états qui étaient tout le temps en ébullition négative, si on parle, etc. Et on ne pourrait pas citer ça aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais que ça a été d'un apport, en tout cas, réconfortant, parce qu'il a enseigné les droits de l'homme à certains chefs d'État. Il a enseigné la paix, la démocratie et la sécurité de la minorité, des minorités ethniques, etc., et que comment il faut faire de sorte qu'il y ait harmonie dans une société démocratique. Donc tout ça, ça fait que, je crois, beaucoup des États africains ont bénéficié de leur mouvement avec Mandela, et même le Nigérian était dans le mouvement, et un certain nombre d'anciens présidents, et c'est un grand mouvement qui a concouru à la paix, pas seulement en Afrique, mais dans le monde.
L'entrevue Radio de la Paix.
Et aujourd'hui, Jimmy Carter n'est plus de ce monde. Il vient donc de nous quitter. Quel héritage laisse-t-il aux États-Unis et à l'échelle mondiale?
Oui, il laisse un héritage à plusieurs dimensions. Dimension politique, dimension économique, dimension, je pourrais dire, sociale. Parce qu'il a donné un exemple. Parce qu'après 4 ans, il n'a pas pu renouveler son mandat. Il aurait pu s'éteindre, il aurait pu aller s'asseoir, tout ça. Mais il a oublié et s'est mis à la tâche. Il s'est mis comme le vagabond de la bonté, de l'humanité. Et même, vous voyez souvent, il va sur des élections, observer des élections un peu partout. Alors donc, cet héritage-là, je crois que comme sa fondation existe, il y aura certainement certaines personnes qui vont s'inspirer de ce qu'il a fait pendant longtemps pour qu'on continue dans ce sens-là avec, bien sûr, surtout nous, les Africains, que ça doit être un levier important pour nous, les Africains, et que les chefs d'État ou bien les associations qu'on voit aussi, les think tanks, les institutions qu'on crée, les instituts qu'on crée un peu partout, peuvent s'inspirer de ce qu'il a fait.
Justement, parlant de l'Afrique, on sait que Jimmy Carter a souvent œuvré pour le développement et la santé ici en Afrique. Et vous, en tant que sachant de tout ce qui concerne la politique américaine et l'engagement de l'Amérique à travers le monde, quelle est votre analyse de cet aspect de son engagement au niveau de l'Afrique, santé et développement?
Vous savez d'abord que les Américains ont une certaine vue de l'Afrique. J'ai toujours dit que l'Afrique a des potentialités économiques. L'Afrique attire les bailleurs de fonds, l'Afrique attire les Américains, l'Afrique attire beaucoup d'hommes d'affaires, même aujourd'hui les BRICS. Alors, donc, par rapport à ce qui est en Afrique, à savoir les champs pétrolifères, à savoir les gisements d'or, etc., l'Afrique peut compter. Mais les Américains les regardent. Les Américains veulent que l'Afrique adopte un certain nombre d'attitudes qui puissent leur permettre de les aider. Les problèmes de bonne gouvernance, de démocratie. Parce qu'en Afrique, on confond tout. Quand on parle de multipartisme, on croit que c'est la démocratie. Multipartisme ne veut pas dire démocratie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tous les pays satellitaires de l'Union soviétique qui ont quitté l'Union soviétique, et vous voyez l'Occident aujourd'hui en train d'aider ces pays-là à se développer. Quand vous partez comme ça, vous voyez Taïwan, les grands pays, et les dragons d'Asie, Singapour, Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud, vous voyez. Donc, l'Afrique aussi partait dans ce développement-là. Alors, à partir de ce qu'il a fait, de l'œuvre qu'il a menée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être chef d'État aujourd'hui pour le faire. Mais si vous l'avez été, que vous avez les moyens, il faut faire ce que Jimmy Carter a fait. Alors, il faut prendre son exemple. C'est un exemple qui doit servir d'école.
Et donc, c'est en même temps des leçons pour les dirigeants africains. Vous en parliez il y a un instant, mais je voudrais que vous soyez un peu plus explicite sur la question. Quelles leçons les dirigeants africains pourraient-ils tirer du leadership et des valeurs de Jimmy Carter?
Il y a beaucoup de leçons à tirer. D'abord, si tous les anciens présidents peuvent se constituer un mouvement pour aider l'Afrique, pour même conseiller les nouveaux chefs d'État, tant au plan politique qu'au plan de la gestion des biens de l'État. Donc, en tout cas, il a laissé beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup d'actes que les Africains peuvent profiter. Quand on voit aujourd'hui les crises au Soudan, etc., en Éthiopie, au Congo, il faut que les anciens présidents fassent un effort de regroupement, parce qu'ils ont déjà géré les États africains pour aider. Et quand l'Amérique ou bien l'Occident voit qu'il y a un regroupement d'anciens présidents, ce regroupement peut être une tribune par laquelle les bailleurs de fonds peuvent passer pour aider l'Afrique. Vous avez vu les problèmes de santé ici, les problèmes de sida, le cancer, je ne peux pas citer tout, mais Jimmy Carter a montré qu'on n'a pas besoin d'être président pour le faire. Il a ses moyens, il le fait. Donc les anciens présidents, et même certaines grandes sociétés, les multinationales, peuvent concourir à faire ce que l'autre a fait, Jimmy Carter.
Nous allons finir totalement. M. Palé Dimaté, vous personnellement, comment vous souhaiteriez que l'on se souvienne de Jimmy Carter ici en Afrique et dans le monde?
Non, ce que je peux dire d'abord concernant Jimmy Carter, que ce soit en Afrique ou dans le monde, je disais tout à l'heure qu'on peut l'aligner aussi sur le rang des vagabonds de l'humanité, de la philanthropie, de la paix, etc. Que ce qu'il a fait doit avoir une tâche indélébile, pas seulement pour les Africains, mais un peu partout. Je dis que c'est rare que vous voyez, que ce soit en Europe, un peu partout, un ancien président qui prend ses moyens et qui veut aider les autres. Alors, deuxièmement, je retiens que Jimmy Carter a montré à la communauté internationale, au monde entier, qu'on peut conquérir la paix. On peut conquérir la paix sans les armes. On peut conquérir la paix par le verbe, par les actes. Quand il y a des malades partout, il n'y a pas de paix. Quand on parle de Covid, il n'y a pas de paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement au plan politique, c'est tout ça. Quand les gens peuvent manger, quand les gens peuvent se lever le matin et puis avoir les petits déjeuners, quand les récoltes sont bonnes et bien vendues, tout ça, ça concourt à la paix. Donc, Jimmy Carter a montré que la paix, ce n'est pas par les armes, c'est par les armes qu'on pose en faveur des populations sinistrées, en faveur des citoyens lambda de chaque État, en faveur des gens qui sont dans les contrées les plus reculées qu'on ne connaît pas, en faveur des minorités ethniques, des minorités religieuses, en faveur des œuvrés un peu partout, vers le cas de Mayotte. Donc Jimmy Carter a montré cet exemple-là. Tous ceux qui ont été chefs d'État dans le monde entier doivent s'inspirer forcément de ce qu'il a fait. C'est pourquoi je dis que ça devait servir d'école.
En tout cas, merci à vous, M. Palé Dimaté. Et avec vous, nous avons appris à connaître Jimmy Carter, ses motivations à la tête des États-Unis à un moment donné de la vie, après donc sa présidence, ses actions humanitaires. En tout cas, avec vous, nous avons cerné l'homme président et l'homme post-présidence. Merci d'avoir édifié nos auditeurs, les auditeurs de Radio de la Paix, qui chaque fois un peu plus éprouvent assez de joie, assez de plaisir à vous écouter, parler de tout ce qui concerne les États-Unis à plusieurs milliers de lieux d'ici. Merci donc à vous, M. Palé Dimaté.
Merci beaucoup, Junior.
Cette entrevue a été menée par Junior Cardin.
C'était l'entrevue Radio de la Paix.